7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui nous sommes à l'école après Charlie. C'était il y a un peu plus d'un mois, les deux attentats qui ont coûté la vie aux collaborateurs de Charlie Hebdo et aux clients de l'hypercachère de la Porte de Vincennes ont propulsé l'école au cœur des préoccupations nationales et des attentes républicaines. Près de 200 incidents ont été signalés dans des établissements scolaires pendant la fameuse minute de silence du jeudi 8 janvier. Depuis, les langues se sont déliées dans le monde enseignant, même si la plupart des professeurs ont demandé à témoigner anonymement dans le reportage que vous allez entendre. Ils racontent un malaise profond, ancré dans l'école depuis plus de 10 ans. Alors qui sont ces jeunes qui ne se reconnaissent pas dans le mouvement de solidarité nationale? Quel doit être le rôle de l'école dans la défense des valeurs républicaines? Alice Milo a sillonné la région parisienne à la rencontre des enseignants qui, au fil des années, ont développé, probablement plus que tout autre adulte, une connaissance fine de ces adolescents, au-delà de leur discours, de leur impulsivité et de leur tâtonnement.
Quand je dis je suis pas Charlie, c'est pas que je m'en fous des gens qui ont été tués, mais aussi que je suis pas d'accord avec les caricatures.
Ils insultaient le prophète, ils insultaient l'islam, je m'en fous, le bien fait pour eux, ils sont morts. Mais après, quand j'ai su qu'il y avait la liberté d'expression, eux, ils croyaient bien faire, ils voulaient juste faire rire les gens, j'ai arrêté de les insulter. Non, j'ai regretté, mais je ne suis pas senti bête.
Le prophète, jamais on l'a vu, jamais on a osé le dessiner, jamais on ne sait pas à quoi il ressemble. Et qu'il le dessine tout nu, avec une étoile dans les fesses, c'est plus de la liberté d'expression, c'est un manque de respect à la laïcité de ce pays. D'un côté, il fallait pas les tuer, mais de l'autre, ça a été de la provocation. Donc c'est à moitié mérité, on va dire.
Ouais, oui, 50% à moitié.
En fait, on est contre la violence, mais on est aussi contre leur caricature.
Personne ne mérite de mourir comme ça, en fait.
Ouais, peut-être des amendes, mais pas la mort directement.
C'est pas des musulmans djihadistes. Dans le Coran lui-même, c'est écrit que faut pas tuer. Donc faut pas dire que c'est des musulmans. C'est des terroristes qui utilisent la religion pour tuer les gens.
Ils ont lavé leur cerveau, c'est pour ça qu'ils ont parti faire ça.
Ouais. C'est pas des musulmans. Un musulman, il tue pas. En fait, on dit que la France, c'est un pays laïque, mais quand on voit des femmes voilées qui enlèvent leur voile pour entrer dans un collège avec un sapin de Noël, et quand on voit qu'une église fait sonner sa cloche alors qu'une mosquée n'a pas le droit de faire l'Éden, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un pays laïque. Nous aussi, on se sent opprimés par rapport à ça. Quand on sort et que les gens nous dévisagent, ma mère, par exemple, une fois, elle a pris le métro et il y a des personnes qui s'écartent d'elle parce qu'elle porte le voile et tout ça. On se sent mal. On est quand même nés ici, on est français, nous aussi. On devrait être respectés, nous aussi.
Bonjour Alice Milo.
Bonjour Emmanuel.
On vient d'entendre les élèves d'une classe de 3e d'un collège d'Île-de-France qui souhaitent d'ailleurs garder l'anonymat à ce collège. Ce sont des propos que vous avez largement entendus dans différents établissements.
Oui, hein, clairement, il y a à la fois une condamnation unanime de la violence et en même temps toujours un ressentiment assez fort contre les caricatures du prophète qui sont vécues vraiment par ces jeunes comme une blessure personnelle.
Des propos, ceci dit, plus nuancés que ceux qui ont été entendus dans certaines écoles pile au lendemain des attentats.
Ah oui, la tension est quand même largement redescendue hein, assez rapidement après les événements. Une poignée d'élèves a été exclue de leurs établissements et parmi eux, quelques-uns ont sincèrement reconnu avoir tenu des propos agressifs, alors par simple provocation ou par mimétisme pour faire comme les autres. Et c'est le cas des élèves de Céline. C'est une professeure de lettres et d'histoire géo qui enseigne dans un lycée professionnel à Suresnes. C'est dans les Hauts-de-Seine. Elle a reçu des lettres d'excuses de ses élèves quelques jours après l'événement. Mais malgré tout, le souvenir de cette journée du 7 janvier lui laisse un goût amer.
Le jeudi, le lendemain des attentats, j'ai tout de suite été très surprise d'assister à des scènes de liesse, des jeunes qui regardaient la vidéo de la boucherie de Charlie Hebdo en s'exclamant, en ricanant, hein, regarde, il va se faire démolir la tête, enfin comme si c'était un jeu vidéo. La fameuse minute de silence, alors ça a été très particulier. Tout de suite, donc un élève s'emporte en me disant c'est n'importe quoi, moi je m'en vais. Donc il a quitté la salle. Deux, trois élèves ont pouffé pendant toute la durée de la minute. Et quand ça a sonné, ce groupe est parti de manière très bruyante en criant dans le couloir « Nique Charlie, à mort Charlie ». Tout est problème. Par exemple, moi, largement avant cette histoire-là, je leur confie des dictionnaires on m'interpelle en me disant, mais attendez, moi, dans mon dictionnaire, là, le drapeau d'Israël a été arraché, a été rayé. Et puis alors les autres regardent, ah ben oui, dans le mien aussi, dans le mien aussi. Si on peut plus parler de la question juive, si on peut plus parler du droit des femmes, si on peut plus parler de l'IVG sans que ça soulève des émeutes dans les salles de classe, l'avortement, c'est une loi de 74, c'est quand même dur de voir contester des valeurs qui sont des valeurs du 18e siècle. Ça devient complètement fou, quoi. Et je pense qu'il faut aller au front et qu'il faut pas avoir peur de prononcer les mots IVG, homosexuel, juif. Enfin, faut pas avoir peur. Et maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui, effectivement... Là, on va parler de Verlaine. Oh non, ah, tu fais Oscar Wilde. Oh là là, moi, je fais pas pour l'homosexualité de ses auteurs. Ou quoi, tu vas leur montrer La vie est belle, le film de Roberto Benigni, hein, qui se passe dans des camps de concentration. Ah non, mais là, tu cherches. Hein, non, mais tu crois pas. On en est là. Nous, on sent que ça fait 10 ans, 15 ans que ça monte et que ça gangrène. Cette semaine, je me suis dit, ça y est, quand même, enfin, on en parle. Faut pas avoir honte, il faut dire qu'on en a marre, il faut dire qu'on est en colère et que ce public existe et que même si c'est pas tout le public, heureusement, même si c'est le fait d'une petite poignée d'élèves, eh ben c'est quand même dur. Et si le travail n'est pas fait, hein, si la prise de conscience n'est pas réelle, oui, alors effectivement, il y a forcément un terroriste qui dort quelque part dans un établissement scolaire français, c'est sûr.
Je suis Romain, enseignant en lycée en Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas eu tant d'expressions fortes de transgression, type « je ne suis pas Charlie » ou type « ils l'ont bien cherché » ou type « ça leur apprendra ». Il n'y a pas eu de gros incidents, mais il n'y a pas eu non plus à l'inverse de « je suis Charlie ». Ce qui me semble significatif, c'est moins les incidents qui ont été très ponctuels et très limités. Il y en a eu 10 par lycée, très bien. Mais c'est une énorme minorité, c'est 1%. Pour moi, c'est beaucoup moins significatif que le fait qu'il y ait eu plutôt globalement une espèce de silence, de refus de dire « je suis Charlie » parce qu'ils n'ont pas envie d'être enthousiastes, ils n'ont pas envie de rejoindre la marée humaine, ils n'ont pas envie de ce grand mouvement de solidarité parce que eux-mêmes, ils se sentent exclus ou ils se sentent mis à l'écart. Eux-mêmes n'estiment pas vraiment faire partie de cette société-là. Alors, on peut dire si, ils font partie de cette société-là, ils sont français, ils sont nés en France, et ils sont scolarisés dans l'école française. Et ils sont dans des quartiers où il y a une politique de la ville, etc. Oui, mais il y a une telle ghettoisation, à la fois sociale, économique, culturelle, morale aussi, ils n'ont pas envie d'être bienveillants, parce que personne ne l'a jamais été avec eux. Ils en ont encore moins envie lorsqu'on va les voir et qu'on leur dit « bah alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas solidaires ?» On leur demande de se justifier, on leur demande d'être de bons Français, on leur demande de chanter la Marseillaise, on leur demande d'être gentils, ils n'ont pas envie d'être gentils. C'est le symptôme de la relégation sociale qui est celle des quartiers populaires. Elle est invisible et de temps en temps elle s'exprime. Il y a 10 ans, elle s'est exprimée avec une minorité qui a transgressé la norme en brûlant des voitures et en créant un désordre.
Vous faites référence aux émeutes de Clichy-sous-Bois, c'était en 2005.
Oui, elles étaient parties de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, pas très loin de là où j'enseigne. La vérité, c'est que demain, elles pourraient avoir lieu à nouveau. La situation sur le terrain n'a pas changé. Le taux de chômage dans les zones urbaines sensibles n'a pas baissé. La reproduction sociale s'est accentuée. L'état dans lequel se trouve notre établissement, par exemple, qui est un état déplorable, ils constatent bien que l'école ne fonctionne pas, ils constatent bien que l'école reproduit les inégalités sociales. Ils voient l'Assemblée nationale, ils voient nos représentants politiques, et ils voient bien qu'il n'y a pas de fils d'ouvriers, ils voient bien qu'il n'y a pas de fils d'immigrés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire passer un message. Nos gamins sont complètement dépolitisés. Ce sont des adolescents, ils n'ont pas de conscience politique. Ils revendiquent rien. Pour moi, il faut faire très attention de ne pas surinterpréter ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. C'est ça le vrai problème. Et donc, tant qu'on réglera pas ça, on aura toujours, de temps en temps, des émeutes, des incendies, des explosions, et surtout, cette espèce d'énorme ressentiment, incroyablement intériorisé, et qui se traduit par le silence, la plupart du temps, mais qui est là. C'est un silence qui est assourdissant. C'est le silence des classes populaires.
Une véritable scission sociale, donc, selon cet enseignant de Seine-Saint-Denis. Rappelons, Alice Milot, que ça correspond aussi à la lecture des responsables politiques.
Oui, effectivement, le Premier ministre Manuel Valls a utilisé le terme d'apartheid social, ethnique et territorial pour parler de la ghettoisation de certaines banlieues françaises. Et quelques jours après les événements, tout le monde s'accorde pour dire que l'école doit redevenir le lieu par excellence de transmission des valeurs républicaines. Mais les 12 mesures qui ont été annoncées par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, semble des réponses insuffisantes aux yeux de la communauté éducative en France. Et parmi elles, on peut citer des cours de civisme et de morale, une journée de la laïcité, renforcer la formation des enseignants, rétablir l'autorité, etc.
Nous y reviendrons plus précisément en deuxième partie d'émission. Mais concrètement, Alice Milot, comment se traduit dans les établissements scolaires ce sentiment d'exclusion?
Eh bien, écoutez le témoignage de Marilyn. Elle a la trentaine. Pour cette enseignante en art appliqué dans un lycée professionnel des Hauts-de-Seine en banlieue parisienne, ses élèves ont trois sujets de conversation, le rap, le foot et la religion.
Dans ma classe, par exemple, j'ai 90% de musulmans. La plupart, je vois bien, l'été, ils vont au bled et puis l'année, ils sont au lycée. Sur leur portable, ils téléchargent des applis, genre la Bible traduite, la Torah traduite, le Coran traduite. Et donc, ils ont tous les versets. Ils disent oui, alors tu vois, si, si, ça tu peux tuer parce que verser tant, tu peux faire ça. Par contre, si tu tues tant de personnes, alors là, voilà ce qui t'arrive. En fait, ils sont tout le temps en train de parler de ça et à justifier par rapport au Coran et à se prendre la tête entre eux. Et ils se demandent tout le temps en cours, ouais, mais toi tu viens d'Algérie, ouais, mais moi je viens du Maroc, ouais, mais toi t'es pas un vrai musulman, ouais, mais moi je suis un vrai musulman, ouais, mais t'es sûr que t'es pas juif parce que quand même, nanana, voilà. Ils vérifient qu'ils mangent pas des bonbons en gélatine de porc. Il vérifie que le gel que met machin dans les cheveux, il n'y a pas du porc dans le gel, de la gélatine. Toute la journée sur le Coran, et madame sur la Mecque, sur le prophète. C'est le seul truc, je pense, dont ils sont fiers. Je pense que c'est plus sexy que d'être rien, quoi, en banlieue. Évidemment, il y a un côté, ben voilà, moi je suis ça, j'essaye de m'y tenir, on est tous ensemble. Pour moi, ça, c'est vraiment pas grave. Je pense pas que ce soit la religion. Je pense que c'est vraiment pour exister parce que c'est des ados.
Ils ne revendiquent rien. C'est autre chose de se définir comme musulman que de se revendiquer musulman. La seule chose qu'ils revendiquent, c'est la capacité de pouvoir acheter un iPhone. Ils connaissent rien du Coran. Ils auraient pu être punk ou ils pourraient mettre des piercings. C'est une démarche qui est adolescente. C'est un âge où on se cherche, où on provoque, on a besoin de transgresser les règles. C'est un islam au sens faible. C'est-à-dire, c'est un vecteur pour eux d'identité comme le rap français, comme le foot, comme les stars de NBA, comme les stars de télé-réalité. Ils bricolent leur identité de façon subjective. C'est comme le ramadan. Nos gamins ne font pas la prière à la fin de la journée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent sur les Twix. Ils mangent, c'est la fête. On mange, on se gave, c'est sympa, c'est familial, c'est cool. Il n'y a aucune critique dans mon propos. C'est juste que la crispation, elle vient surtout des observateurs, pas des jeunes. Si nous, on va les voir en leur disant « Dites donc, vous êtes un peu trop musulman » ou « Dites donc, faites attention parce que vous êtes en train de devenir conservateur avec l'islam », la seule réaction que ça va avoir, c'est que ça va les renforcer. Ils vont retourner le stigmate. Et du coup, ils vont de plus en plus se définir comme musulmans. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gamines qui sont voilées. Le jour où on les laissera tranquilles, elles mettront un voile ou pas, mais si ça devient une question neutre, du coup, ça ne posera plus de problème.
Alice Milot, le repli communautaire dans certains établissements scolaires, ça n'est pas un fait nouveau, ni même récent.
Oui, effectivement, il y a 10 ans, une enquête collective menée par 10 inspecteurs généraux, dont Jean-Pierre Aubin, a été réalisée en même temps que le vote de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Et à l'époque, le rapport alertait déjà sur de nombreuses atteintes au principe de laïcité. J'ai rencontré d'ailleurs Jean-Pierre Aubin qui m'a expliqué qu'une fois publié en 2004, ce rapport avait été complètement enterré par les pouvoirs publics. Public, notamment parce qu'il était bien trop délicat et polémique.
Il a d'ailleurs été récemment exhumé par le ministère de l'Éducation nationale, comme
et
par
oui,
hasard.
Mais un peu tard, si l'on en croit Marilyn, enseignante en lycée professionnel dans les Hauts-de-Seine, elle explique les conséquences de cette politique de la poussière sous le tapis, comme on dit dans le monde enseignant.
Ce qui est grave, c'est ce que font les adultes. Ce qui est grave, c'est qu'on ait des classes surchargées. Ce qui est grave, c'est qu'à la cantine, il y ait deux menus, de la viande halal ou de la viande pas halal. Cette année, on a mis un sapin de Noël, mais on s'est battu pendant des années parce que c'était « Ouh là là, si on met un sapin, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même un signe, c'est Noël, non, non, non. » Alors qu'ils bouffent tous les jours halal. Moi, je veux la laïcité absolue dans mon lycée. Vraiment. Parce que c'est quand même que des conneries, les religions. Donc, stop, quoi. Je veux une laïcité absolue, qu'on puisse bosser tous ensemble sans tout le temps avoir ces soucis-là, quoi. Il y a des gamins qui bouffent halal pour pas se faire emmerder. C'est pas grave, parce que moi je suis prof, je suis de l'autre côté, mais les petits gamins qui sont juifs, ils vont pas dire qu'ils sont juifs. Les petits gamins qui commencent à chercher, qui sont homosexuels, surtout ça, il faut pas en parler. Parce qu'il faut quand même dire que c'est une population en lycée pro qui est quand même hyper raciste envers tout ce qui est différent. Moi, ils me demandent parfois, en début d'année, « Madame, vous êtes sûre que vous n'êtes pas juive, hein ?» Parce qu'avec vos grands cheveux noirs et tout, ils cherchent quand même tout le temps. C'est un ado, il me dit ça, voilà, dans 3 ans, il se dira « J'étais quand même un peu con, enfin, j'espère, quoi. J'espère, j'espère. »
Mais vous les excusez beaucoup, quand même, alors que leurs propos sont quand même inadmissibles.
Ma normalité n'est plus la normalité des gens. Quand je me suis fait taper par l'élève qui a fait 3 mois avec sursis, quand j'étais au tribunal et que je parlais de l'incident, le juge n'arrêtait pas de me dire « Mais arrêtez, c'est pas normal !» Et je disais « Oui, mais en fait, on a une normalité qui est plus la même. » Tellement c'est à longueur de journée qu'on se prend des « sus ma bite ouais, », ouais. 10 ans avec eux, je pense que j'ai un peu perdu de ce qui était normal, pas normal, quoi. Et j'ai un seuil de tolérance qui n'est pas le vôtre. Quand je me suis fait taper par l'élève en cours, les autres gamins, j'avais mes photocopies, ils me disaient « Bon, bah madame... » Donc ils me tapent et tout, il se passe ce qui se passe. Et les autres me disent « Bon, bah madame, on continue là, on fait quoi aujourd'hui ?» Alors que moi, j'étais toute, voilà, avec du sang et tout. En fait, c'est leur normalité. Peut-être je minimise trop. Mais en même temps, j'arrive pas à leur en vouloir. Enfin, moi, je trouve que c'est pas du tout fait pour eux, cette école-là. Je les vois une fois par semaine, 1 heure. Je dois avoir environ 400 élèves, 500 élèves. J'ai pas le temps de m'occuper d'eux correctement, quoi. C'est hyper triste. Nous, on sait en salle des profs à quoi on sert. On sert à les tenir au chaud le temps que ça se passe, quoi. Je pense que le lycée pro sert à ça. On est les remparts, on garde tous ces gars-là au chaud. Ce que je trouve compliqué et dangereux, c'est qu'on a certains gamins qui ont un regard. C'est en partie à cause de ces gamins-là que je dirais pas aujourd'hui comment je m'appelle. C'est des gamins qui nous font peur. Je pense que tous les profs en ont, mais on n'en parle pas. Parce que justement, ils font tellement peur que... On fait notre cours en faisant zéro faute, en étant toujours hyper poli, rien, voilà. Pour pas qu'il y ait d'histoire avec ces élèves-là. Et ceux-là, c'est des gamins qui vont être toujours à la limite, et tu sais pas quand ça va être dangereux. J'ai eu une histoire avec un élève, qui avait comme ça les yeux tout le temps à me regarder, très méchamment, mais aussi c'est très pervers et un petit peu fou comme ça, et il a dit clairement aux flics qu'il voulait me tuer. Et donc, il a été déscolarisé. Donc, s'est retrouvé dans la rue. Ça faisait déjà plusieurs lycées qu'il faisait. Je crois qu'il avait 21 ans. Il était en seconde ou en première. Il est tombé dans un autre problème. Je crois que c'est un trafic de drogue. Et maintenant, il est en prison pour de vrai. Et ce petit gamin-là, qui avait l'air vraiment méchant et tout, si on m'avait dédoublé ma classe, si j'avais pu faire attention à lui, on serait peut-être pas allé jusqu'au tribunal. Et ça, j'en veux vraiment à mes chefs et plus haut, parce qu'ils nous ont coupé des heures, ils nous ont enlevé vraiment... Voilà. Parce que si on avait 15 gamins au lieu de 30, ben ça arrive pas. Ça arrive beaucoup moins. Parce que tu peux t'en occuper. Et c'est normal que ça finisse mal.
Je suis François Dubé, sociologue à l'école et aux études en sciences sociales. En France, on pense que l'école est responsable de tout et qu'elle doit sauver le monde. D'ailleurs, regardez la réponse qui est apporté aujourd'hui, c'est l'école va sauver la République.
Du terrorisme.
Ce qui sauvera la République du terrorisme, c'est l'efficacité de la police, d'abord. Deuxièmement, ce qui pourrait sauver l'école, c'est d'avoir de l'emploi. Ça irait mieux. Ce qui pourrait sauver l'école, c'est de casser les ghettos invivables. Je veux dire, tout le monde dit liberté, égalité, fraternité, mais toutes les classes moyennes choisissent l'établissement scolaire qui leur plaît. Dans les établissements les plus difficiles, aucun enseignant ne met ses propres enfants. Et dit, la République, c'est la même pour tous, sauf pour tes gosses.
Donc quoi, il y a une hypocrisie sociale?
Évidemment, il y a une hypocrisie sociale. Et culturelle. C'est pas l'école qui a fait ces monstres, comme on dit. L'école leur a pas appris à poser des bombes, faut quand même pas dire n'importe quoi. L'école a pas fait son job, mais ce que je veux dire, c'est que tous les gamins qui ne croient plus à la République ne se transforment pas en terroristes. Il faut quand même aussi raison garder. Ces gamins-là étant les victimes des injustices. Le fait d'être victime d'une injustice ne fait pas que votre réaction est juste.
Voilà, l'école sonnait chaos après Charlie, avec des ressentis, des analyses assez divergentes, comme vous pouvez l'entendre. Suite de votre enquête reportage Alice Milot, ce sera juste après le flash. 7 milliards de voisins, bien sûr, vous restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes. Et d'ici là, si vous en avez envie, toutes vos réactions en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous tendent les bras. À tout de suite, restez avec nous dans 3 minutes.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Deuxième partie de votre reportage, Alice Milo, l'école après Charlie, près d'un mois après les attentats qui ont frappé la France. Face à la montée de certains communautarismes religieux et des atteintes à la laïcité, l'école, c'est vrai, a du mal à s'exprimer d'une seule et même voix, si ce n'est du côté peut-être des enseignants, pour crier leur solitude face à un problème qui les dépasse largement, notamment au lendemain des attentats, seuls face à leurs élèves.
Oui, hein, démunis, au front, super exposé, abandonné, ce sont les mots de ces enseignants. Certains n'ont pas pu faire respecter la minute de silence dans leur classe, d'autres n'ont pas su quoi répondre aux provocations de leurs élèves. Dans l'émotion, certains sont ceux qui ont eu le sentiment de ne pas bien faire, de ne pas bien dire, de ne pas trouver les mots justes.
Une réponse collective qui aurait été plus appropriée selon les enseignants?
Oui, ils sont nombreux à estimer qu'il aurait fallu faire une minute de silence tous ensemble dans la cours ou qu'il aurait fallu discuter tous ensemble de ce qu'on allait dire aux élèves, mais ne pas être seul face à la classe. Finalement, beaucoup d'enseignants ont préféré attendre quelques semaines pour en parler avec leurs élèves, le temps que les tensions s'apaisent, le temps de prendre du recul, le temps finalement de se réapproprier les outils de l'école pour en parler. C'est le cas d'Ariane Bach, professeure de français au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, c'est dans le Val-d'Oise.
Rangez ça s'il vous plaît, vous êtes belle, c'est bon. Sortez de quoi écrire. Alors, vous commencez à lire les textes. Alors, je vais peut-être situer pour tout le monde, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. Le deuxième texte, c'est quoi? Fanatisme. Qui est de qui?
Voltaire.
Ouais, Voltaire. Donc, le siècle des Lumières aussi. Et c'est un texte qui est issu de quel livre?
Dictionnaire philosophique.
Voilà, le dictionnaire philosophique. Comment vous définiriez le fanatisme? Vous ne savez pas ce que c'est que le fanatisme? Non, du tout. Dans quelles circonstances on parle de fanatisme?
Les stars.
Quand on est fanatique d'une star. Vous l'avez entendu à la télé il n'y a pas longtemps.
À la télé, sous France 2. Ouais. Rigolez pas, c'est vrai, toujours. Les djihadistes, toujours, il faut, ouais, les fanatiques et tout.
Les djihadistes, c'était des fanatiques. Ouais.
C'est des gens qui se convertissent à l'islam et après qui vont combattre.
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça?
Non, c'est pas ça le djihadisme. Ouh là là. C'est quelque chose de dérivé, mais c'est pas ça le djihadisme.
Vous allez lire ce que Voltaire donne comme définition.
Je suis Ariane Bach, professeure de français au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. Pendant plus de deux semaines, j'ai reculé l'exercice, c'est-à-dire j'ai vraiment refusé d'en parler avec mes élèves parce que j'avais pas encore réfléchi au positionnement. J'étais pas arrivée à une conclusion, hein, que l'école doit vraiment, plus que jamais, devenir un endroit de débat. Et plus un endroit où le professeur délivre du savoir de manière magistrale, en versant du savoir dans l'entonnoir, là. Ça doit être un lieu où les élèves débattent. Ces élèves qui viennent avec des propos provocants, parfois, avec des idées reçues. Je pense que s'ils amènent ces propos-là à l'école, c'est aussi parce qu'ils ressentent le besoin de mettre ses opinions en débat. Refuser de discuter ses propos, c'est renvoyer l'enfant chez lui avec la certitude qu'il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas les exprimer. Et du coup, il va garder ces opinions-là qui vont se cristalliser en lui. Et c'est là qu'on crée les problèmes, à mon avis. On ne peut pas interdire ses propos à l'école. Que ce soit interdit dans la cité, c'est normal, évidemment, ce sont des délits. Mais l'école, c'est le lieu de la formation de la conscience. Si on interdit à la pensée de se former, comment voulez-vous qu'on fasse évoluer l'opinion de ces jeunes ?
Je suis professeure dans le Val-d'Oise, dans un collège d'éducation prioritaire, professeure d'histoire-géographie et d'éducation civique. Les élèves nous scandalisent, leurs propos nous scandalisent, mais écoutons-les, laissons-les parler alors. Depuis plusieurs années, un des thèmes qui revient, c'est essayer de dire un peu par rapport aux juifs, il n'y en a que pour les juifs. Donc, même chose, je suis dans le dialogue, je déconstruis, il n'y en a que pour les juifs, ça veut dire quoi? Ah ben madame, ben on protège pas les mosquées et pourtant on protège les synagogues. C'est vrai? Donc je leur explique pourquoi. Actuellement et heureusement, il n'y a eu aucun musulman en France qui a été tué parce qu'il était musulman. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas eu besoin de protéger les mosquées. Et je leur ai dit, est-ce que sincèrement vous pensez que aller à la mosquée en étant protégé par des policiers, ce serait chouette? limite à leur demander, mais donc à ce moment-là, peut-être que tu souhaiterais que des musulmans soient tués pour que enfin on ait le privilège d'aller à la mosquée protégée. Et là, les élèves disent tout de suite, mais non, madame, évidemment que non. Donc je leur fais comprendre par l'absurde, par un raisonnement absurde, que leurs propos, ils ont eu le droit de les dire, que je les ai écoutés, mais que c'est totalement illogique et qu'ils doivent réfléchir à la logique de leurs propos. Si, par exemple, le lundi, il y a une attaque de l'armée israélienne contre Gaza, le mardi, vous êtes en musique, vous pouvez être certain que les élèves vont en parler. Donc, tout professeur, quelle que soit sa matière, est amené à faire face à ce genre de questions. Si on a peur des élèves, faut pas être prof. Si on a peur de ce qu'ils peuvent dire, faut pas être prof. La laïcité, c'est pas que c'est le cadet de nos soucis, c'est un souci parmi 10 000 autres. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on ait plus d'assistants d'éducation, c'est-à-dire des surveillants. J'aurais souhaité qu'on ait plus de médecins scolaires. J'aurais souhaité qu'on ait des assistantes sociales dans tous les établissements scolaires et qu'elles soient là tous les jours. Bah, qu'il y ait plus de professeurs, hein, tout simplement. Qu'on ait moins d'élèves par classe, qu'on soit mieux payé, parce que ça, c'est une autre grande problématique. Que les candidats pour devenir professeurs, qu'il y en ait un petit peu plus, parce que là, on a une saignée. Un professeur qui arrive, qui est contractuel, qui est payé pas énormément et qui va prendre une classe pendant un mois et demi, comment il peut gérer toutes ces frustrations d'adolescents ?
Alice Milo, une semaine après les attentats, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a lancé un grand chantier sur l'école en annonçant 12 mesures pour faire face aux atteintes à la laïcité. Que faut-il en retenir ?
Alors, la seule vraie mesure de fond porte sur la formation des professeurs. 1000 enseignants seront formés à la laïcité d'ici juillet prochain pour être des ambassadeurs dans leurs établissements scolaires. La ministre a également entendu les appels des enseignants qui ne veulent plus être toujours seuls face à leur classe, avec la création de réserves citoyennes dans les académies. Alors concrètement, il s'agit d'un vivier de volontaires issus de différents milieux socio-professionnels qui pourraient intervenir dans les écoles.
Il existe déjà, ceci dit, de nombreux enseignants qui, de leurs propres initiatives, font venir des intervenants extérieurs dans leur classe aujourd'hui.
Oui, mais là, l'idée, c'est de le généraliser pour que tous les élèves puissent en bénéficier. Et je suis allée voir le travail, par exemple, de l'association Initia Droit, qui envoie depuis plus de 10 ans des avocats bénévoles dans les écoles. C'est le cas de Maître Alberta en visite dans une classe de 3e en région parisienne.
Bonjour, bonjour jeunes gens.
Bonjour.
Le cas dont je vais vous parler est donc un cas qui a réellement eu lieu. Il s'agit d'un individu, un élève qui s'appelle Massir et qui a filmé avec son téléphone mobile l'agression programmée, nous dit le jugement, de l'un de ses professeurs qui a été roué de coups par un autre élève de sa classe. Que pensez-vous du comportement de Massir ?
Oui. Il n'a rien fait, il n'est pas venu venir aider la personne qui se faisait agresser.
Ça veut dire qu'il est complice ?
Vous savez que la complicité est punie, est-ce que vous savez de quelle manière elle est punie ?
Il aura une amende.
1 an de prison dont 6 mois ferme et 5 000 euros pour la professeure à titre de dommages d'intérêt.
Si la personne ne fait rien et le prof l'insulte de petit con ?
La provocation n'autorise pas à la moindre violence.
Mais moi, je savais pas qu'en filmant, eh ben, on allait avoir une grosse peine comme ça. En plus, je savais pas que quand on filmait juste la vidéo, ben, on était complices.
Mais alors, qu'est-ce que ça change pour vous de savoir ça, finalement ?
Qu'il faut pas filmer les bagarres, parce que plusieurs fois, il y a eu des bagarres ici, il y en a qui ont filmé, et maintenant, on sait que si on le fait et qu'on les montre à un peu tout le monde, eh ben, on risque d'être puni.
Moi, je dis la vérité, je n'aime pas trop les profs, et s'ils se font frapper, eh ben, j'aurais filmé pour me moquer d'eux, en fait.
Est-ce que tu penses que ton attitude va changer ?
Ah bien sûr, moi j'aurais pas filmé si je savais qu'il y aurait trop de prison ferme comme ça.
Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait des intervenants extérieurs ?
Oui, parce que la maîtresse, enfin, elle nous apprend par exemple les maths, ou bien le français, etc. Nous, on trouve pas qu'elle y connaît grand-chose à la justice, par exemple. Et quand là, c'est une avocate qui nous en parle et qu'elle a fait des études spécialisées dedans, eh ben, on la prend beaucoup plus au sérieux.
Je suis Lucille Rambert, directrice générale de l'association Initia Droit. Nous envoyons depuis 10 ans déjà des avocats, donc bénévoles, dans les classes de collège et de lycée pour illustrer les cours d'éducation civique par une méthode de cas pratique. Leur faire comprendre par eux-mêmes la raison d'être de la loi, la partie bon sens qu'il y a dans le droit, qu'ils peuvent très facilement s'approprier, ce qui fait qu'ils comprennent que le droit c'est fait pour eux, que c'est pas du tout quelque chose de coercitif qui leur est imposé, mais que ça permet de mieux vivre ensemble. Ça, il faut vraiment le planter partout et dès que possible. Nous, on commence parfois même en CM1, CM2, jusqu'en terminale et en classe prépa. Il est jamais trop tôt, vraiment, pour expliquer le droit. Ils nous disent, ah oui, mais c'est vrai que les insultes racistes, c'est pas des paroles anodines. Parce que parfois, ils confondent le virtuel, la vraie vie, ils confondent le jeu. Mais ça, c'est normal, ils sont en devenir, ce ne sont pas des adultes. Et après, ça a passé à autre chose. Donc, si petits, ils prennent l'habitude, entre guillemets, de se traiter, eh bien, ça va être quelque chose du vocabulaire banal, comme j'ai soif, et vont dire ça plus grand. Et plus grand, les conséquences, elles vont être beaucoup plus graves. Donc, je pense qu'il faut quand même que le droit soit là pour expliquer le fondement et la sanction.
Un enseignant est tout aussi à même, finalement, d'expliquer ce genre de choses.
L'enseignant, lui, fait la partie éducative, et après, quand on tombe plus dans le dur, dans le juridique et dans les sanctions, franchement, je pense qu'un avocat est mieux profilé, mais c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre, dans le même sens.
Bon, là, on vient de l'entendre, des avocats pour parler du droit et pour parler de la laïcité, Alice Milot. Quels pourraient être les interlocuteurs?
Eh bien, aussi contradictoire que cela puisse paraître, pourquoi pas des chefs religieux eux-mêmes, hein, c'est une vraie question qui divise,
oui.
Faire ou non rentrer le loup dans la bergerie. Alors, j'ai rencontré à cette occasion un rabbin, un imam, un prêtre et un pasteur. Tous les quatre ont fondé l'UDPP 93, une association de dialogue interreligieux qui intervient pour le moment dans les écoles privées, mais depuis quelques années, ces responsables religieux frappent timidement à la porte des établissements publics pour proposer leurs services. Mais sans succès, explique le père Frédéric Benoît et Moshe Lewin, le curé et le rabbin du Rincy en Seine-Saint-Denis.
Ce n'est pas vraiment un refus, ça tombe dans les oubliettes. Voilà, je pense qu'il faut y aller modérément, c'est pas en faisant du forcing qu'on y arrivera, mais je pense que les événements d'aujourd'hui sont une porte d'entrée. Si on peut être des partenaires efficaces pour lutter contre tout intégrisme et tout fanatisme, eh bien, j'estime que nous avons notre rôle à jouer dans la société. C'est notre responsabilité.
Le professeur aussi, il peut dire là, c'est du fanatisme.
Oui, mais quelle légitimité le professeur à définir ce qu'est une religion ? C'est pas le professeur qui peut le dire. Un enseignant qui n'est pas pratiquant, quelle légitimité il a vis-à-vis de l'élève de dire ça, c'est du fanatisme ou pas ? Il peut dire pour la société, c'est du fanatisme. Pour l'enseignement, pour l'éducation nationale, c'est du fanatisme. Il peut pas dire pour la religion. C'est le religieux qui peut dire, moi qui suis religieux, je te dis que ça, c'est du fanatisme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort pour l'élève, qui peut faire confiance aux représentants religieux de sa religion. Il peut pas dire l'imam, le pasteur, le rabbin ne connaissent pas leur religion. Il peut dire par contre le professeur ne connaît pas suffisamment la religion. Il y a une vingtaine d'années, on m'avait invité dans un UEFM.
Formation des professeurs.
Hein. Oui. Et je me suis aperçu qu'il y a des enseignants qui connaissent bien les religions, mais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont désarmés. Et les récentes polémiques qu'il y a eu dans les écoles montrent combien des professeurs qui avaient 14-15 ans d'expérience se sont trouvés désarmés face à des gosses de 8 ans, 9 ans pour donner des réponses. Nous qui sommes des religieux formés à la religion pouvons apporter peut-être plus de réponses sur nos religions aux enfants qui s'interrogent.
Je suis Lassen Lablac, imam de Clichy-sous-Bois. La dernière intervention, question qui a été posée, est-ce que nous avons le droit de juger ? Est-ce qu'une femme qui ne porte pas le voile, est-ce qu'elle est toujours considérée comme musulmane ? Quel est le sens du jihad dans l'islam ? Il y a même un élève de terminale qui est venu avec un verset qu'il avait déjà écrit en amont et qui relatait la violence. Alors j'ai expliqué que les versets coraniques, il fallait les contextualiser pour vraiment connaître leur sens. Les prendre et les sortir de leur unité textuelle aujourd'hui et les mettre en pratique, c'est un danger. Le Coran, les enseignements de l'islam, l'éthique condamnent toutes sortes de violences. Et on voit la réaction qui est due à l'ignorance.
Comment vous voulez rassurer les gens qui s'inquiètent du prosélytisme que votre démarche pourrait évoquer ?
Si nous nous retrouvons les quatre religions ensemble, je ne suis pas prosélyte. Je suis au contraire en dialogue avec les autres et j'aide un jeune à entrer en dialogue avec ses camarades parce que devant lui, il a des hommes qui dialoguent. Attention, je ne rejette pas les personnes qui sont athées. Et je pense que d'ailleurs, ça serait intéressant qu'on soit, nous, religieux, avec quelqu'un athée pour expliquer justement cette démarche. Quelle vision de l'homme avons-nous ?
Ce que nous faisons en intervenant ensemble permet aussi de faire baisser dans les écoles l'antisémitisme. Parce que lorsque l'imam est à côté du rabbin, l'élève voit que l'imam respecte le rabbin, que le rabbin respecte l'imam, il n'y a pas de raison de traiter de sale juif ou de sale musulman ou autre chose.
Est-ce que c'est pas dommage d'être obligé de convoquer la religion, de convoquer les textes et de convoquer l'histoire pour montrer que ces élèves sont fanatiques, alors qu'il suffirait peut-être de convoquer leur humanisme ?
C'est dommage, le fait est qu'aujourd'hui, tout le reste n'a pas fonctionné. Donc il faut trouver d'autres méthodes pour pouvoir faire face à cette violence qui existe.
Convoquer toutes les bonnes volontés donc pour désamorcer les tensions au sein de l'école française, c'est une piste. Alice Milot, on peut se poser la question, pourquoi pas des journalistes dans ce cas-là ?
Eh bien oui, pourquoi pas. D'autant plus que la méfiance envers les médias traditionnels est immense aujourd'hui parmi la jeunesse. Et parfois, à juste titre, hein, il faut savoir balayer devant sa porte. Hein, pour certains médias, il y a cette tentation de rattacher aux attentats tous les incidents de violence à l'école. Ce qui explique qu'aujourd'hui, un jeune sur cinq est adepte de la théorie du complot. C'est un sondage Ipsos du printemps 2014. Et c'est le cas de ces jeunes filles rencontrées dans un lycée du Val d'Oise avec les commentaires de Sophie, enseignante dans le même département.
Moi, je trouve que c'est suspect parce que il y a eu des morts, mais le chiffre d'affaires de Charlie Hebdo, il est monté en flèche. Là où il y avait le prophète Mahomet, je crois, c'était tout est pardonné. Cet article, il est mis aux enchères et là, il est vendu très cher. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être du hasard. Ça a toutes les preuves d'un complot, en fait.
Et moi, je trouve ça vraiment bizarre et suspect que tout de suite après, ils ont eu l'attentat et qu'après, ils ont eu leur manifestation et ils sont remontés à flot.
Ouais. Vous l'expliquez comment ?
Et vous l'expliquez comment ? Vous pensez qu'ils ont commandité leur propre assassinat ?
Oui,
oui. Parce que, madame... Oui, ben oui, je suis... Ouais. Voilà.
Peut-être qu'ils ont fait commanditer un petit truc pour faire parler d'eux. Une petite prise d'otage à l'intérieur de Charlie Hebdo pour faire parler du journal. Et peut-être que ça s'est mal fini. Ça a dû déraper, en fait.
Cette hypothèse-là, elle sort d'où ?
Ça sort de ma tête. C'est pas les gens qui vont nous dire ça, mais c'est juste des trucs qu'on trouve nous-mêmes et on trouve que c'est pas logique, en fait.
Pourquoi vous êtes aussi méfiant de la version officielle ?
Les médias nous montrent que ce qu'ils veulent nous montrer. Ils vont cacher certains trucs. Et c'est en allant sur Internet qu'on arrive à trouver nous-mêmes. C'est pas des sources fiables, on va pas se mentir.
T'as plus confiance dans des sites alors que tu sais que c'est pas des sources fiables qu'en des médias traditionnels.
Je regarderai la version des médias, je regarderai la version sur Internet, et puis je ferai ma propre version pour moi.
Le complot, c'est intéressant, c'est mystérieux, c'est qui veut prendre le pouvoir, etc. C'est forcément excitant pour des élèves. Alors là, c'est un élève qui était particulièrement remonté lors d'une conversation à la fin du cours et qui avait besoin de lâcher quelque chose. Il me dit, mais madame, moi je me demande quand même si ce serait pas des juifs qui ont monté ça pour en fait attirer l'attention sur eux à nouveau. Peut-être qu'ils sont capables de tuer les gens de leur communauté pour attirer l'attention et pour... Et il avait pas de pour, il avait aucune cause derrière. Et ce qui ressortait de tout ça, c'est qu'il y en avait marre que ce soit les musulmans qui soient pointés du doigt. Donc là, bah pareil, on déconstruit. Est-ce que ta source est fiable ? Bah oui, c'est une vidéo YouTube. Est-ce que tu penses que cette vidéo qui est faite par un gars dans son garage et où on voit pas son visage, est-ce que tu penses que sa théorie est plus valable que celle, par exemple, d'un universitaire ou d'un journaliste qui a creusé la question, etc., qui a comparé les témoignages? On peut rassembler des faits qui n'ont rien à voir ensemble et en faire une théorie. Quelqu'un qui vous dit « Oui, de toute façon, ça, c'est la faute des Juifs. » Et puis, tu sais qui est derrière les médias ? Les Juifs. Et puis, de toute façon, la presse est aux mains des Juifs. Je dis, à un moment, quelqu'un qui est monomaniaque, il faut se poser des questions. Il faut se dire, tiens, quel est le but de cette personne derrière ?
Vous parlez de Dieudonné, hein ?
Oui, je parle de Dieudonné, qui garde une audience importante chez les élèves, notamment en banlieue, parce que sans doute, il met le doigt sur quelque chose qui est très intéressant, c'est le déficit mémoriel de pas mal d'enfants de banlieue par rapport à la guerre d'Algérie. Il mélange complètement la guerre civile et la guerre d'Algérie d'indépendance. Donc il y a un déficit de mémoire, je vais dire une horreur, mais c'est exactement ça. Il y a besoin d'avoir son propre massacre fondateur, c'est-à-dire il n'y en a pas que pour les Juifs, nous aussi, on a notre propre massacre, et pourquoi on ne parle jamais de la guerre d'Algérie ? Et ça, il y a un vrai problème là-dessus. Je m'aperçois également, quand je commence le cours avec les quatrièmes sur la traite négrière, la majorité des enfants antillais que j'ai dans mes classes découvrent pendant mon cours qu'ils ont sans doute des ancêtres qui ont été esclaves parce que leurs parents sont venus en métropole avant la politique mémorielle qui a été mise en place et qui est très récente aux Antilles. Et on est dans la même problématique sur la guerre d'Algérie. Et à partir du moment où les élèves se seront réappropriés leur propre histoire, là, il y aura beaucoup moins d'anxiété et de frustration, par exemple par rapport à la Shoah. Et Dieudonné aura moins de public en tout cas.
7 milliards de voisins. C'est sur RFI.
Et nous consacrerons d'ailleurs l'émission lundi prochain aux théories du complot en général et vous pourrez bien sûr en débattre avec nos invités. 7 milliards de voisins. Revenons maintenant à l'école après Charlie. Parmi les 12 mesures annoncées par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, pour permettre à l'école de redevenir une fabrique de citoyens, il n'y a pas grand-chose finalement sur la mixité scolaire, Alice Milot. Je voulais dire la mixité scolaire au niveau social.
Oui, et pourtant impossible de parler de lutte contre la ghettoïsation des quartiers sans parler de mixité scolaire. Mais c'est un peu la patate chaude que tout le monde se renvoie, notamment depuis la refonte de la carte scolaire en 2007 sous la présidence Sarkozy. Cela dit, quand la mixité existe, la cohabitation n'est pas forcément simple non plus. Je suis allée au lycée polyvalent Blaise Pascal à Châteauroux, dans l'Indre, dans la région centre, où se côtoient toute l'année des élèves de filière générale et des élèves de filière technique. Deux jours après les attentats contre Charlie Hebdo, un élève de seconde générale, qui aurait défendu la liberté d'expression sur son profil Facebook, a été roué de coups par trois autres lycéens d'une seconde professionnelle. L'épisode a ému la France entière. La ministre elle-même s'est déplacée jusqu'au lycée pour rencontrer les élèves. Une semaine républicaine a été mise en place dans la foulée par la direction du lycée. Objectif, créer des rencontres entre les filières pour briser les préjugés.
On se mélange pas, quoi. Chacun reste dans sa classe. Chacun dans sa filière, voilà, quand on est entre nous, de toute façon.
Et il y a des généraux, ils nous ont dit que les bacs pro, ils étaient un peu cons. Et ils ont même dit qu'à 16 ans, on pourrait arrêter les cours et tout. Nous, ça nous a pas plu. Ils se sentent plus haut que nous.
Ils croient qu'on n'a pas la même mentalité et que nous, on est plus bêtes qu'eux et que, soi-disant, ils sont plus intelligents, quoi. Ils vont aller dans des études plus élevées et nous, on restera juste dans nos métiers de... de marteau. Nous, au moins, on aura un boulot, pas eux.
Donc, allez-y, installez-vous de nouveau par groupe de trois. Alors, donc, la dernière fois, vous avez eu entre vous des échanges. On vous avait donc proposé les questions. Chacun y répondait. Il y avait différents avis, différents points de vue dans chaque groupe. Ce que je vous propose, c'est de reprendre, en quelque sorte, les différents avis du groupe, c'est-à-dire de retenir aussi les avis des autres pour pouvoir, en quelque sorte, nous les restituer. D'accord ?
C'est intéressant de faire se rencontrer des jeunes qui, la plupart du temps, se connaissent pas d'ailleurs, et puis en même temps ont des idées préconçues. Les faire travailler ensemble, ça c'est déjà une première réaction, et justement ça a très bien marché. Pas eu de difficultés, chacun a exposé son point de vue. Là, eh bien évidemment, les élèves, on va dire de la partie générale du lycée, sont aperçus que leurs camarades étaient très pertinents, tout aussi pertinents qu'eux-mêmes, dans ces conversations, et que chacun se posait les mêmes questions.
Autre grand oublié des réformes qui ont été annoncées par la ministre de l'Éducation, le budget, Alice Milot, l'argent.
Et oui, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Des enseignants des collèges de Seine-Saint-Denis se sont mis en grève fin janvier pour dénoncer la baisse du nombre d'heures allouées à leur collège. Une mesure qui était déjà dans les tuyaux avant les événements de Charlie Hebdo, mais qui a semblé bien malvenue dans un contexte où l'école apparaît comme le fer de lance des valeurs républicaines.
Il y a ce matin un refus de la direction départementale de recevoir aucune délégation. On en a assez des mensonges. Assez.
Des moyens pour l'éducation, pas pour la répression.
Alors ce matin, on est devant l'inspection académique à Bobigny et donc on vient parce que ils se réunissent pour discuter des heures et des moyens alloués à tous les collèges du département. Donc comme on les trouve nettement insuffisants, on est venu manifester ce matin.
Vous êtes enseignante ?
Moi, je suis enseignante, oui, en histoire-géographie, et c'est vrai qu'au même moment où on nous où il y a des discours qui font peser sur l'école des responsabilités énormes suite à l'affaire et aux attentats à Charlie Hebdo, et où on prétend donc investir dans l'éducation. En réalité, ça, c'est des beaux discours, parce que la réalité, c'est qu'on nous supprime des moyens, et à côté de ça, voilà, on nous tient des discours très très moralisateurs, très culpabilisateurs aussi, parce que on serait responsable, on n'aurait pas dispensé les bonnes valeurs, on n'aurait pas fait suffisamment d'éducation civique, comme si en plus le problème de ce qui s'est passé était lié à ça. Enfin, personnellement, mon analyse, c'est que c'est pas en faisant la morale aux enfants. Le problème n'est pas du tout là. Le problème, il est social, il est économique. On donne déjà du travail aux jeunes dans les cités.
On accuse l'école de tous les maux alors qu'on ne vous donne pas les moyens,
Bien sûr, oui, on ne nous les donne pas, puis on nous les retire. Enfin, les seuils qui étaient fixés jusqu'à maintenant dans les ZEP sont en train progressivement d'être grignotés. Voilà, donc on a des effectifs de plus en plus nombreux. Et ça, ça veut forcément dire qu'on va laisser des gamins à l'écart, des classes à 25, 26, 27 élèves, quand on a des élèves en grande, grande difficulté scolaire. Comment s'occuper de ces mômes si les effectifs ne sont pas diminués et qu'on puisse avoir le temps de mettre, par exemple, des groupes en autonomie parce que ça marche mieux pour eux, pour se consacrer à 2-3 gamins qui ont moins compris ces... Voilà, c'est pas possible. Par exemple, là, cette année, on va perdre quasiment tous les moyens qui nous permettaient de faire des projets, en plus des heures de cours. Vous voyez, donc des projets culturels, faire de la lecture de contes mythologiques avec les enfants, les sortir, faire des classes culturelles, leur faire des expositions au centre Pompidou. Ça, je vous cite des projets qu'on a eus. Bon, ben voilà, avec la diminution des heures, c'est des choses qu'on va pas pouvoir faire. C'est fondamental même. Au moins autant que les heures de cours à proprement parler, oui. Ça rétrécit complètement. Et puis, c'est une façon de leur dire, le message qu'a envoyé, c'est si vous n'êtes pas digne ou vous n'en avez pas besoin. Hein. Je veux dire, la culture, les grands textes, les musées. Alors qu'on nous sert un discours qui se prétend le contraire. Hein, mais dans la réalité, non. Peut-être encore plus, effectivement, dans des milieux défavorisés où ça se passe moins dans les familles. Donc, il faut que l'école compense des manques aussi qu'il peut y avoir au sein des familles.
Voilà, l'école après Charlie, c'était un reportage d'Alice Milot à la réalisation de la technique Romain Dubrac. Vous pouvez bien sûr écouter toutes nos émissions sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Nous livrez vos réactions sur Facebook, Twitter. Sur Facebook, le débat est très animé en ce moment même, où vous postez en direct pendant l'émission, et Twitter également, bien évidemment, ou bien vous nous écrivez plus à froid à 7milliards@RFI.fr. Demain, à l'approche de la Saint-Valentin, peut-on croire au grand amour aujourd'hui en 2015? Vos réactions, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Et bien évidemment, vous pouvez réagir sur Facebook dès qu'on aura posté l'annonce de l'émission. À demain les voisins, merci de votre fidélité.